Bienvenue à tous dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Cette semaine, l'émission s'éloignera quelque peu des préoccupations strictement scientifiques pour se rapprocher d'un questionnement alliant art et science. Au programme, le projet Miscible présenté à la nuit Art et Science par le Festival Maintenant. Cette année, les organisateurs de la soirée ont placé la sensorialité des expériences scientifiques et artistiques au centre de leur dispositif. Les porteurs du projet Miscible se sont appropriés cette problématique en s'engageant en faveur d'une réflexion sur la téléprésence. L'idée était d'en dépasser les limites actuelles en termes de spatialisation de l'expérience artistique et de perception virtuelle de l'altérité. Ils ont préféré définir leur objet de façon coopérative ainsi que les moyens techniques pour le mettre en forme.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus.
Pour nous présenter ce projet à dimension internationale, nous avons rencontré Marie-Aude Lefeuvre, directrice de la programmation culturelle du Diapason, Ludovic Paquin, enseignant-chercheur en chimie à l'Université Rennes 1, Mathieu Lesourd, artiste plus connu sous le pseudonyme Maotique, et François Lemercier, ingénieur d'études en domotique et intelligence du bâtiment à l'Université Rennes 1.
Le projet Miscible, en fait, rentre dans le cadre d'une relation qui a été créée à partir de novembre 2011 avec la Société des arts technologiques de Montréal, leader mondial de la téléprésence artistique, donc qui a développé à la fois des outils technologiques qui sont toujours en cours de développement et qui permettent de rapprocher, en fait, des lieux distants sur un projet artistique avec vraiment, à un moment donné, cette sensation que l'on est sur dans un seul lieu unique et que à la fois les publics et les artistes et autres intervenants du projet sont vraiment en lien direct et au même endroit, au même moment. Il a fallu créer une relation avec la Société des arts technologiques puisqu'ils ont à la fois ce laboratoire de recherche et de développement, une direction qui s'appelle Contamine, une direction de résidence croisée, avec lequel, en fait, qui a été mon interlocuteur permanent depuis 2011. C'est effectivement avec eux que s'est construite la relation sur la base, en fait, d'une expérimentation. Le projet Contamine, c'est de disséminer un peu des outils et des objets, enfin, et des projets artistiques, mais dans un processus vraiment expérimental. C'est-à-dire qu'on avance pas à pas et on expérimente et on voit si c'est possible ou pas, jusqu'au moment où on décide que la performance est réalisable et qu'on peut la montrer au public. Donc c'est une relation un peu particulière, en fait, moi, que je n'avais pas eue avec d'autres partenaires extérieurs, comme Electronica, avec lequel on travaille énormément. Là, on a vraiment eu à construire une relation et à l'expérimenter. Et on s'était donc fixé 2 années de travaux en commun, soutenus à la fois par le Consulat général de France à Québec et, en ce qui nous concerne pour l'université, très soutenus par la Rennes Métropole. Et on a donc expérimenté des choses l'année dernière, voilà, qui n'ont pas été montrés au public parce qu'on a considéré qu'ils n'étaient pas suffisamment aboutis pour pouvoir être montrés. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une relation très forte à partir du moment où je suis allée avec un chimiste qui s'appelle Patrick Beauchat, qui aujourd'hui est à Montréal parce qu'il y sera sur scène jeudi, et que la rencontre à la fois avec Joseph Lefebvre, donc le directeur des résidences croisées Contamine, l'artiste associé de la SAT, qui est Emmanuel Chantre, voilà, on a senti qu'il se passait quelque chose, qu'il émergeait déjà le présentiel à Montréal, le fait de pouvoir rencontrer régulièrement Manuel, Joseph, on fait que le projet artistique, il a pu émerger, sachant qu'avec nous, on a fait des Skype réguliers et que Mathieu, par ailleurs, a pu venir ici en résidence. Et tout ça a fait que, voilà, on a pu construire petit à petit le projet et c'était très important pour nous.
Alors, on ne l'a peut-être pas précisé, mais le projet Miscible donc, va s'ancrer autour d'un dispositif numérique. Comment, à partir de ce dispositif, vous avez pensé la question des liens entre la science et l'art? Quelles ont été les différentes questions que vous êtes posées depuis 2011, le point de départ du projet?
En fait, cette relation un peu art et science, effectivement, il y a un dispositif qui nous permet la relation entre Rennes et Montréal. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse en tant que responsable d'un service culturel universitaire, c'est aussi de travailler avec les enseignants-chercheurs et de valoriser un peu leurs travaux. C'est-à-dire que pour moi, on peut présenter un certain nombre de spectacles à l'université, mais au-delà de ça aussi, une de nos missions, c'est de faire connaître ce qui se passe à l'université vers un public extérieur. En tant que service culturel, moi, il me semble que voilà, on a un chemin à trouver et qui peut se nouer au travers d'une relation entre des artistes et des enseignants-chercheurs et qui permettent aux uns et aux autres d'expérimenter et au-delà de ça, de s'apporter mutuellement des choses, mais quelquefois, ça peut aussi ouvrir des portes pour moi, pour un scientifique qui, en présentant un peu un objet de recherche à un artiste, va se trouver confronté à un regard qui est différent du sien et qui, par un manque de connaissances scientifiques, va poser peut-être une question qui, tout d'un coup, ouvre une petite porte et une autre façon de se positionner par rapport à l'objet de recherche pour le chercheur. Et pour moi, ça, c'est important. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'essaye d'expérimenter des projets dans cette relation entre artistes et chercheurs.
Alors, l'un des manques de la radio, bien entendu, c'est de ne pas avoir de visuel. Vous m'avez montré juste avant le dispositif très concret qui sera proposé donc jeudi. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer très concrètement aux auditeurs comment ça va se passer ? Alors, on va demander à l'artiste donc Maotique, comment va se passer très concrètement la performance ?
Bonjour à tous. La performance, l'œuvre, en fait, est à mi-chemin entre une installation interactive et une performance. C'est-à-dire que les gens vont arriver dans une salle et découvrir un dispositif assez inédit, composé en fait, de matériel de chimie médicale et un endroit qui est quand même assez immersif parce que les gens vont pouvoir se déplacer tout autour de l'œuvre. Mais l'idée, en fait, c'est de donner la possibilité aux gens d'interagir avec ce dispositif en déposant des gouttes dans un récipient. Et suite à cette interaction, à créer une réaction chimique qui va être augmentée au niveau sonore et visuel. Donc c'est une performance qui va durer dans 30-40 minutes. Et au départ, en fait, on va créer en fait plus une œuvre composée de signaux en fait qu'on va pouvoir mettre en scène au départ. Et à la suite de 5 minutes, 6 minutes, les gens vont pouvoir interagir par eux-mêmes avec le dispositif. Donc au niveau sonore, on essaye d'augmenter aussi ce bruit de liquide, ces réactions chimiques. Et au niveau visuel, il s'agit en fait de recréer aussi visuellement avec du visuel génératif. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas vraiment de vidéo ou des choses préenregistrées. Tout est généré en temps réel à partir de codes et de scripts. Et du coup, chaque intervention de chaque individu va être augmentée au niveau sonore et visuel.
Et comment va s'orchestrer l'interaction avec les gens qui seront à Montréal ? De manière visuelle et peut-être aussi sonore, comment les publics vont peut-être pouvoir interagir au travers de l'expérience artistique que vous allez proposer ?
Donc oui, la performance va être connectée en temps réel via un système de téléprésence scénique. Et en fait, chaque action de chaque individu dans chaque lieu va être interprétée visuellement de part et d'autre. C'est-à-dire qu'une personne qui va déposer une goutte à Montréal, on va pouvoir en fait le visualiser sur des projections au sol qui va être composée en fait de 6 cercles. Il y a 3 stations en tout. Chaque station en fait est représentée visuellement par un cercle qui est positionné au sol. Et donc l'action de l'individu à Montréal pourra être interprété en temps réel sur ces cercles.
Alors, votre nom de scène, c'est Maotique. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur votre parcours artistique pour que les auditeurs comprennent bien en quoi, finalement, vous êtes pertinent pour agir sur ce type de dispositif ?
Donc, ouais, je suis artiste multimédia. Je travaille un peu dans ce milieu-là depuis 10 ans. J'ai travaillé beaucoup dans l'événementiel et aussi dans le monde du théâtre. Depuis 2 ans, en fait, je me consacre plus ou moins à des performances immersives et interactif, où les gens en fait peuvent contrôler en fait des dispositifs interactifs pour créer des performances audiovisuelles. J'ai travaillé aussi pour des concerts et pour des installations dans des lieux publics. Donc, je travaille beaucoup à l'ASAT aussi dans la satosphère. J'ai fait 3 œuvres au cours de l'année dernière. Donc, c'est sûr que en fait le fait que je puisse collaborer encore avec la satosphère et puis tous les gens de la Société des Arts Technologiques sur ce projet, a aidé aussi à mettre en place en fait les outils nécessaires au développement de cette œuvre. La proximité que j'avais à Montréal avec le Metalab et les techniciens ont aussi contribué à ça.
Alors quand on parle de dispositif de téléprésence, on pense souvent à la question du corps et de l'expérience perceptive de la part des spectateurs. Comment vous avez essayé de penser, vous, cette question-là, sachant que la téléprésence se caractérise plutôt dans le sens commun comme quelque chose d'assez désincarné en matière de sensations corporelles?
Donc la téléprésence, on voulait un peu s'éloigner de ce qu'on connaît, des médias comme Skype ou des choses comme ça, où on peut se voir et puis se parler en direct. Et du coup, on a essayé un peu de contourner la question de téléprésence. L'idée, en fait, c'était de vraiment sentir la présence artistique d'un lieu présente et dans le cadre d'une performance. Et il y a beaucoup d'œuvres qui ont été faites de performances collectives où chaque personne en fait agit sur un des médias, et le fait de pouvoir le faire en temps réel avec deux lieux situés géographiquement de part et d'autre rend la chose encore plus intéressante, mais aussi inconnue. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore testé le dispositif avec les deux lieux connectés. On a fait des essais, mais c'est sûr que c'est quelque chose, un peu un terrain inconnu qu'on va découvrir en même temps que tout le monde, et qui va, je pense, nous apporter beaucoup de surprises et de choses inattendues. Et c'est un petit peu cette recherche de l'inconnu, comment on peut incarner cette téléprésence d'une manière un peu différente.
À votre avis, Maotique, comment cette performance va-t-elle pouvoir questionner la place du numérique dans les dispositifs d'exposition ?
Moi, ce qui m'intéresse dans le numérique, c'est la quantité de médias qui peut être contrôlée et faire entrer en fait des gens dans des lieux où les codes sont changés. C'est-à-dire que la perception de l'espace, la perception du son et de l'image est complètement modifiée. Et je pense que dans cette nouvelle ère numérique, on essaye en fait de vraiment changer les rapports qu'on a avec l'espace avant tout, et c'est ce qui rend la chose un peu intéressante, car je pense que l'être humain se réagit par rapport à l'environnement qui l'entoure. Et c'est sûr que quand on est devant une peinture ou une sculpture, on a vraiment le regard figé devant un objet, alors que dans ces types d'expériences, on n'a pas vraiment le choix en fait de contrôler ses émotions. Cette ère en fait de numérique qui mélange l'architecture et toutes sortes en fait de disciplines. Je pense que l'ère numérique est en train d'envahir plein de différents domaines, comme le médical. Et là, on a pu travailler avec des chimistes, et c'est très intéressant aussi de mélanger les deux. Et du coup, je pense que c'est pas quelque chose en fait un art en soi. Je pense que c'est plus un outil qui peut être vraiment interprété de plein de manières différentes.
Oh,
soir de la performance, les publics rennais et montréalais se sont regroupés, à 5600 km l'un de l'autre, autour d'une installation futuriste afin de participer directement à la production du contenu audiovisuel. Dans le noir de la salle de spectacle du Diapason, trois potences ornées de néons quadrillaient l'installation. Des poches de perfusion au contenu fluorescent y étaient attachées. Les uns après les autres, les spectateurs pouvaient remplir un bocal de ce contenu fluorescent dans lequel s'opéraient les réactions chimiques. Ludovic Paquin, enseignant-chercheur en chimie à l'Université Rennes, a cherché quelles propriétés chimiques des produits naturels pourraient prendre place dans la performance. Il nous en explique les différents enjeux.
Mon activité de recherche est centrée sur trois sujets principaux, à savoir la synthèse de médicaments à vocation anticancéreuse, anti-Alzheimer ou anti-Parkinson, une thématique sur le développement de nouveaux solvants, essentiellement adaptés soit à la capture des composés organiques volatiles, soit à l'extraction de composés d'origine biologique. Alors je pense entre autres à l'extraction de composés biologiques dans les algues, dans les plantes. Et pour faire tout ça, on utilise beaucoup chez nous la technologie de l'irradiation micro-ondes pour à la fois réussir à extraire les molécules ou pour faire les synthèses des anticancéreux.
Alors on dit de ce projet qu'il n'aurait pas été faisable sans la présence de physiciens. Depuis le début, vos domaines de recherche paraissent assez éloignés comme ça d'un point de vue extérieur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels ont été vos apports scientifiques sur l'élaboration de ce projet ?
C'est sûr que si on essaie de relier nos domaines de recherche à la performance qui va avoir lieu jeudi soir, on va avoir du mal à faire le lien. Ce qu'on nous a demandé, c'est pas tellement d'apporter nos domaines de recherche, c'est plutôt d'apporter notre regard de scientifique et de chimiste pour essayer de créer une performance artistique. Alors pas une performance de chimie, mais une vraie performance artistique. Donc on nous a dit, voilà, aujourd'hui, on veut faire de la téléprésence, on veut créer de l'interaction, et puis il faut que ce soit artistique. Alors pour une fois, on a travaillé un peu différemment d'habitude. D'habitude, les artistes qui veulent travailler avec nous viennent, ont une problématique artistique très, très définie, du style, voilà, j'ai envie de faire des bulles qui tiennent, qui soient colorées, odorantes, est-ce que vous savez faire ça ? Et ça, c'est une problématique à laquelle on peut répondre parce qu'elle est très, très définie. Là, on a travaillé sur quelque chose de complètement différent puisqu'on a été inclus dans le projet artistique dès le début. Ça veut dire qu'au départ, on a réuni des artistes, des scientifiques et on a dit, voilà, il faut faire un projet artistique. Et du coup, le projet, il ne s'est pas construit d'un côté artistique qui serait venu chercher du scientifique. Il s'est construit sur de l'échange entre artistes et scientifiques avec des propositions et chacun s'est nourri du savoir-faire de l'autre. Et on a expérimenté beaucoup, hein. On en rediscutait tout à l'heure, on a énormément testé de choses, on est parti d'idées très différentes de ce qui va être présenté jeudi, puis on a testé, ça ne fonctionnait pas comme on voulait, on a réessayé autre chose, on a fait en fait la même démarche qu'une expérimentation scientifique pure et dure, mais à travers une démarche artistique. Et on s'est rendu compte qu'en fait la démarche artistique et la démarche scientifique, elles ont ça en commun, de l'expérimentation, l'apprentissage des savoir-faire de chacun, et c'est comme ça que ça s'est construit. Mais clairement, on n'a pas de lien direct avec la démarche scientifique classique du laboratoire dans nos projets de recherche par rapport à la performance de jeudi. C'est plus sur un savoir-faire de chimie, un regard de chimiste et de scientifique pour apporter une collaboration sur un projet artistique.
Avec votre regard de chimiste, quelles grandes étapes ont composé l'élaboration de ce projet sur les années ? Est-ce qu'il y a eu des faits un peu marquants du point de vue strictement scientifique ?
Alors scientifiquement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Déjà, au départ, il fallait qu'on sache ce qu'on voulait faire en tant que chimiste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, voilà, dans le projet, le début de ce projet-là, au départ, il a été initié à travers le Lab Food de Montréal. Et donc, on était parti sur un projet qui allait relier les sens, qui allait relier la cuisine, qui allait relier des choses comme ça. Et on s'est dit, tiens, on va réfléchir chimiquement par rapport à ça. Puis finalement, on a complètement changé cette histoire et scientifiquement, on l'a complètement changé. Dans le sens où on s'est dit, non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Artistiquement, on n'arrive pas à faire de lien, ça ne fonctionne pas. Et on a tout reposé à plat en disant, voilà, on rediscute complètement sans a priori et on propose des choses de chimie qui nous paraissent potentiellement intéressante. Alors, ce qui nous paraissait au départ potentiellement intéressant en tant que chimiste n'était pas obligatoirement ce qui paraissait potentiellement intéressant à un artiste. On n'avait pas tout à fait la même vision. Puis, au fur et à mesure, on a affiné chacun nos visions et on a commencé à avoir un langage assez commun. Et là, la réponse scientifique, elle a été beaucoup plus facile à donner. On n'a pas eu vraiment une réponse scientifique à une problématique. On a plus ouvert notre esprit pour, à un moment donné, avoir un discours plus synergique et plus commun pour pouvoir réussir à travailler et à répondre. Après, je ne pense pas qu'on ait fait d'énormes progrès scientifiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait d'énormes progrès culturels.
François Lemercier,
ingénieur d'études en domotique et intelligence du bâtiment.
Je suis pas encore chercheur. Pour le moment, en fait, je suis chargé de cours et en gros, je suis ingénieur d'études, chargé de cours, responsable d'un diplôme en fait dans l'intelligence du bâtiment à Rennes 1. Mon domaine d'intervention, c'est tout ce qui est interopérabilité dans et à l'extérieur des bâtiments. Donc, on va parler de smart home et smart building. J'ai un profil électronicien, donc c'est aussi pour ça, je pense que ça marche bien sur le projet Amicib parce qu'il y a beaucoup de questions relatives à l'électronique puisque on est dans l'interaction des objets connectés. Donc moi, mon domaine d'expertise et l'objet de ma recherche plus tard, ce sera les objets connectés dans la ville en fait. Donc à quoi servent les objets connectés dans un bâtiment dans un premier temps? Donc on peut citer plein de choses, la performance énergétique, la collecte de données pour proposer du service, et effectivement, augmenter les choses. Donc la performance, admissible, c'est augmenter la détection d'une goutte, des dispositifs sur lesquels il va falloir mettre en interaction des mouvements à Montréal et puis les répercuter à Rennes. Donc c'était ça, je digresse un peu, mais en gros, c'était ça ma mission, c'était de prendre en charge cette partie-là.
Est-ce que vous pourriez nous décrire donc comment vous avez mis en application vos champs de compétences dans le projet Amicib d'un point de vue donc scientifique? Qu'est-ce qui ont été les enjeux pour vous, sachant que vous êtes arrivé, il me semble, un petit peu plus tard que les chimistes?
Oui, c'est possible, je me souviens plus très bien. C'est vrai que ma partie, essentiellement, ça a été de créer des cartes électroniques et les programmes qui vont avec pour, comment je pourrais dire ça, en fait, donner de la liberté en fait, à Mathieu dans sa créativité par rapport à la performance. Donc l'objet scientifique, je me rends compte que je l'ai pas trop perçu comme tel. Je me suis senti plutôt du côté artiste-codeur. Et j'ai toujours pris les choses comme ça, en fait. Je pense pas qu'il y ait un objet scientifique majeur dans cette production. En fait, l'idée, c'était plutôt de mettre en œuvre des librairies de programmation relatives à l'interopérabilité des objets en jeu dans la performance. J'y vois peut-être plus un objet artistique. Par exemple, les cartes électroniques, il a fallu les designer, leur donner une forme particulière. Moi, je pensais à des artistes comme Peter Vogel, en fait, qui fait toujours le pont entre électronique et musique. Et moi, j'ai développé ces cartes comme ça. Je me suis dit, j'ai envie qu'elles soient visuellement, qu'elles soient jolies visuellement. Et puis après, j'ai pensé à la fonctionnalité, quoi. Il y avait quand même un cahier des charges, effectivement, où il fallait respecter, en fait, tout un tas de fonctionnalités pour servir la performance. Je dirais que l'objet scientifique, c'était d'aller chercher surtout l'activité de Patrick et Ludovic sur les procédés chimiques, en fait. Alors, je vais pas parler très bien parce que c'est pas trop ma partie, mais comme il y a des réactions, en fait, c'était de les mettre en valeur, c'était de faire des choix de composants, etc., pour servir en fait leur travail.
Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu éventuellement sur les technologies qui ont été utilisées pour l'élaboration de ce projet et peut-être les logiciels un peu particuliers? Comment tout ça s'est orchestré?
L'objet était de partir sur quelque chose de très très simple, pas faire des cartes non reproductibles. On a la contrainte, c'est qu'il fallait travailler à Montréal et à Rennes, donc il fallait les mêmes dispositifs. Donc on a fait un peu comme tout le monde, on a travaillé avec du Arduino qui est très employé dans le monde du spectacle et même à l'université, les étudiants adorent parce que c'est très simple à mettre en place. Donc chaque carte électronique repose sur des technos Arduino. Et ensuite, même chose pour tout ce qui est communication, pour l'interaction entre les objets, c'était d'utiliser un protocole qui est à mi-chemin entre le monde artistique et puis le monde académique. Donc j'ai utilisé OSC. Qui est un protocole de communication qui, on va dire, qui est après le MIDI, que tout le monde connaît, mais qui a des possibilités au niveau réseau qui sont bien plus importantes et que Mathieu aussi maîtrise très bien. Donc ça nous a permis, ça a été aussi un langage commun pour nous, et donc ça a facilité grandement les choses. Sur la partie peut-être plus électronique, après, l'enjeu majeur, c'était de pouvoir travailler la lumière et la détection des gouttes. Donc pour détecter les gouttes, c'était quelque chose d'assez simple. On a travaillé sur plusieurs systèmes au départ, mais on a retenu le contact simple. Après, c'était travailler la lumière UV. Donc là-dessus, il n'y avait pas énormément, enfin, il n'y avait pas de choses très compliquées. C'était avant tout du choix de composants à nouveau, quoi.
À chacun d'eux, le Labomatic a posé la même question. Quel avenir serait envisageable pour ce type de dispositif? L'artiste Mathieu Lesourd, Maotic.
Bah pour ma part, le fait d'avoir collaboré avec des chercheurs en chimie et François pour ce projet, en fait, ça donne vraiment beaucoup d'idées, d'inspiration pour d'autres collaborations. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des gens comme des musiciens, des choses comme ça, pour créer des œuvres. Et là, cette fois, ça a été au départ un peu déstabilisant de travailler avec des gens qui ont une connaissance qui est complètement autre que la mienne. Et le fait de pouvoir échanger, en fait, se nourrir un peu d'idées avec des projets d'expérimentation tels, donne en fait envie de continuer cette collaboration avec d'autres gens. Je vois qu'on a travaillé aussi avec un souffleur de verre et son travail paraît assez incroyable. Et c'est sûr que dans un futur proche, j'aimerais peut-être travailler avec une personne comme ça pour créer des sculptures avec un mélangeant de lumière et verrerie, par exemple, ou des choses comme ça. Quand on voit un petit peu le matériel médical aussi qui a été utilisé, il y a des choses dans le milieu du médical qui m'intéressent énormément. C'est un milieu où la technologie est en pleine révolution également, et c'est des capteurs et des senseurs très, très, très poussés technologiquement. Et j'ai déjà été approché par des gens, des chercheurs qui étudiaient en fait sur la maladie des yeux, en fait, qui voulaient reproduire en fait visuellement en temps réel en fait la forme d'un œil et sa composition au niveau du pattern d'image. C'est des choses en fait que j'aimerais bien peut-être me diriger vers la suite.
Ludovic Paquin, enseignant-chercheur en chimie à l'université Rennes 1.
Alors, pour ma part, j'ose espérer que ces liens arrêt-science vont continuer et perdurer, parce que je crois qu'ils sont profitables pour tout le monde. J'ai l'impression que pour un chercheur, je crois qu'on imagine trop le scientifique qui, quand il rentre chez lui, son livre de chevet, c'est un livre de science, que quand il regarde la télé, il regarde des sciences et qu'il vivrait que sur son campus. Et je crois que les chercheurs ont beaucoup plus d'imagination que ça. Et je pense qu'on est... plus on peut se nourrir d'expériences diverses, et mieux c'est. Et que cette ouverture-là, elle sera positive à la fois pour les artistes et à la fois pour les chercheurs. Donc j'espère que ça va donner envie à d'autres gens de le faire. En tout cas, moi, ça me conforte dans l'idée que nous, on doit continuer à le faire. Avec Patrick Beauchat, dès qu'on a l'opportunité de le faire, on y va. On n'a jamais hésité. On a toujours répondu présent à chaque demande. Et on en est toujours sorti extrêmement satisfait. C'est extrêmement gratifiant intellectuellement. Et je suis sûr que, même si on n'y voit pas le lien direct avec la recherche, je suis sûr que c'est extrêmement stimulant pour la recherche en général.
François Lemercier, ingénieur d'études en domotique et intelligence du bâtiment.
Ouais, dans le même sens que Ludo, en fait, c'est vrai qu'au niveau académique, des collaborations comme celle-là, dans un premier temps, ça implique un peu les étudiants, parce que c'est vrai, quand on est en cours, on leur parle de nos technos, etc. On a beau les appliquer, c'est pas forcément hyper impliquant pour eux, mais quand on leur dit viens au Diapason jeudi soir prochain, tu vas voir en fait ce qu'on peut en faire de toutes ces technos dont on parle, même si elles sont un peu dérivées de ce qu'on voit par exemple pour le bâtiment. Donc dans ce que dit Ludo, c'est ça qui est valorisant, c'est que là on peut intéresser les étudiants comme ça. Un deuxième point, moi, que je pourrais citer comme application, c'est vrai que là, on a parlé de beaucoup de choses augmentées, en fait, et comme moi qui interviens plus dans le bâtiment, la maison ou le building, je me dis, on parle beaucoup de maisons connectées aujourd'hui, on pourrait parler de maisons augmentées, et tout ce qui sera présenté jeudi soir, c'est des choses qu'on pourrait tout à fait voir dans un laboratoire chez Orange ou je ne sais quel autre constructeur de services, on va dire, au confort à la maison, et proposer en fait de l'interaction entre les gens. Et c'est des dispositifs qu'on pourrait voir, je pense, dans le futur, ou qu'on voit déjà. Il existe des habitations connectées, la fameuse maison de Bill Gates qui suit son habitant, en fait, et qui adapte la couleur des murs, etc. On est déjà, en fait, dans le bâtiment augmenté, et je pense qu'on pourrait... on pourrait tout à fait aller vers ça. D'un autre côté, pour prendre une autre casquette, puisque je fais de la musique à côté, je me dis, c'est aussi une performance qui permet de prendre conscience qu'on peut tout à fait impliquer différemment le public. Le concert, en fait, c'est une espèce de recette qui est très vieille. Il y a plein d'artistes qui savent faire beaucoup mieux. Je pense à Ezekiel, notamment. Ils savent impliquer le public, en fait, faire participer. Il faut changer, je pense, la façon dont on fait venir les gens en concert. Et je pense que des dispositifs comme ça, hyper impliquants, immersifs, ça fait changer l'expérience. Et pour l'artiste aussi, quand on est sur scène, c'est hyper intéressant. On n'a pas juste l'instrument, on a d'autres outils, en fait, qui permettent de monter des performances qui n'ont plus rien à voir avec un concert classique. Et je pense que que ça aussi, ça changera, ça permettra en fait de changer la vision du concert, soit du point de vue de l'artiste, soit du point de vue du public.
Marie-Aude Lefeuvre, directrice de la programmation culturelle du Diapason.
En ce qui concerne la direction d'un service culturel universitaire, je pense qu'effectivement une telle expérimentation et un tel investissement humain, financier, par tous les développements qu'on a pu faire depuis 3 ans, aujourd'hui, ne peuvent que nous amener à élargir les collaborations et à continuer dans ce domaine-là. Je pense que la fusion aussi des deux universités rennaises peut être une opportunité justement de la travailler en partenariat avec aussi bien des enseignants-chercheurs de sciences humaines que de sciences dures, et que là, à mon avis, on a des chemins à trouver, et le service culturel devient un lieu de ressources, un lieu de mise en relation, et je pense qu'on a vraiment à construire dans l'avenir de nouvelles collaborations à partir de ces outils qu'on a pu commencer à vraiment prendre en main, élaborer.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Malgré toutes ces précisions, on aura tout de même regretté que le public ne puisse en prendre connaissance avant le soir de la performance. En effet, ce manque de pédagogie a peut-être terni la réussite de l'expérience du fait d'une euphémisation visuelle et sonore peut-être un peu trop poussée. Vous étiez dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Retrouvez bien sûr le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr.